Les Jardins, les Jardinières.
Bonjour à tous et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre professionnelle Cathy Racine, jardinière à Delémont.
Bonjour.
Le mois d'octobre touche à sa fin, les beaux jours aussi vont gentiment s'en aller. Comment s'occuper de son jardin en cette période de l'année? Cathy Racine est là jusqu'à 8h pour répondre à toutes vos questions de jardinage. Les jardinières, c'est l'émission qui vous donne la parole.
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et surtout pour discuter avec Cathy Racine de ce qui vous tracasse à propos de votre jardin. Je sais que ça demande un peu de courage d'appeler en direct à la radio, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas des plantes carnivores, on ne mord pas, on est là pour vous aider. Vous pouvez aussi poser votre question par SMS, je vous donne deux conseils. Tout d'abord, inscrire le mot « jardin » en début de message et l'espace avant votre question. Et ensuite, pensez à donner des descriptions très détaillées de votre souci pour que Cathy Racine puisse vous donner une réponse précise, de vrais conseils personnalisés. Et même chose si vous choisissez d'écrire par formulaire internet sous l'onglet émissions questions jardinières, n'hésitez pas à bien développer votre question.
On profite de la fraîcheur du samedi matin entre 7h et 8h pour prendre soin de votre jardin. C'est parti pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Sonia a ramené un palmier du Tessin qui a maintenant environ 5 ans. Chaque année, elle l'a emballé complètement pour le protéger du gel. Mais maintenant qu'il commence à devenir grand, elle se demande si elle peut protéger uniquement le tronc pour le protéger du froid. Cathy.
Oui, on peut faire ça comme ça. Le seul souci qu'il y a, c'est que ces palmiers, même si c'est un palmier du Tessin, on sait très bien que le Tessin n'a pas tout à fait le même climat que chez nous. Il y a des grands risques que ce palmier gèle ou perde de la vitalité pendant l'hiver. L'idéal, si on a un palmier qui est grand, pardon, c'est de le protéger, mais de pas l'emballer avec quelque chose de en tissu. Pourquoi ? Parce que chez nous, ben, on a bien vu que ces matins, on avait beaucoup de brouillard, donc qui reste en plus très très longtemps. Ce tissu va s'imprégner de cette humidité, et puis en fait, vu qu'il est en contact avec la plante, il va se développer une pourriture, hein, parce qu'on a quand même quelques mois devant nous avant qu'ils reviennent les beaux jours. Et puis, il y a des risques, ils viennent des maladies, des champignons, ou même que la plante dépérisse. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir le protéger, par exemple, avec des panneaux en sagex. On imagine un pot qui fait 70-80 cm de diamètre. On pourra mettre des panneaux en sagex tout autour de cette plante, mais attention, ils ne doivent pas entrer en contact avec la plante. Lui faire en fait une cabane, si on veut bien. Et sur le dessus de la plante, on mettra un parasol ou quelque chose qui évitera que l'eau n'entre à l'intérieur de cette cabane. Mais par contre, ça permettra à l'air de circuler et puis comme ça, la plante pourra avoir les conditions optimales pour tenir en hiver.
Donc un palmier peut très bien résister dans notre région si on s'en occupe bien, il n'y a pas de souci.
Oui, il faut vraiment préciser si on s'en occupe bien, parce que c'est quand même assez compliqué, mais surtout n'emballez pas vos plantes. C'est un petit peu comme nous, hein, si on nous emballe pendant 4-5 mois, puis qu'on nous laisse comme ça, on ne va pas être très très content. Donc c'est la même chose pour les plantes.
Et c'est aussi valable, donc il y a le palmier qui demande ce genre de soins-là. Quel autre arbre pourrait demander ce genre de soins avec la petite cabane pour...
C'est à peu près le seul, parce que les autres plantes méditerranéennes qu'on peut trouver chez nous, qui sont à la mode actuellement, enfin même depuis plusieurs années, elles nécessitent vraiment d'être mises à l'intérieur, en hivernage. Donc là, c'est vraiment tout un autre procédé. C'est vrai que le palmier, c'est assez complexe, parce que finalement, si vous observez un petit peu dans nos jardins ou autour des maisons par chez nous, on voit très 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 peu de palmiers. Donc les gens qui en ont en été, préfèrent les rentrer en hiver, ou alors il y a la possibilité de les donner pour passer l'hiver chez un paysagiste qui aura toutes les conditions nécessaires.
Claire de Saint-Aubin aimerait installer une plante grimpante sur la façade de sa maison. Elle se demande quel type de plante grimpante vous pouvez lui conseiller et surtout quelles précautions il faut prendre pour que la maison ne soit pas abîmée.
Alors, il faut faire attention avec les plantes grimpantes, parce que suivant quelle sorte on prend, ça peut être très très vite envahissant, ça peut aller dans les volets, ça peut empêcher de fermer les volets, ça peut empêcher d'ouvrir les fenêtres, il peut se passer beaucoup de choses. On peut mettre pas mal de plantes grimpantes, il existe beaucoup de variétés qu'on trouvera chez les jardiniers. Là, vaut mieux aller chez un jardinier quand même pour se faire conseiller correctement. On pourra mettre un lierre, on pourra mettre de la vigne vierge. La vigne vierge, c'est ces belles feuilles qu'on voit rouges à l'automne contre les façades, ça c'est très très joli. Il y a plusieurs plantes qu'on peut mettre, c'est pas un problème. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à la façade, parce que toute plante grimpante va s'accrocher sur la façade. Et si, par exemple, on a une façade qui est en marmorant, par exemple, ça viendra détériorer au fur et à mesure des années, parce qu'il y a de l'humidité qui va se mettre là entre, et la plante qui va quand même s'accrocher là après. Donc là, il faudrait pouvoir mettre contre la paroi un support, soit quelque chose en fer ou quelque chose en bois, on trouve pas mal de choses dans les grandes surfaces, et puis laisser un espace de 5 à 10 cm entre la façade, pour qu'il puisse y avoir une aération, puis que rien ne vienne dégrader, parce que l'humidité risque de rentrer à l'intérieur de la maison après.
Est-ce que c'est la bonne période pour installer une plante grimpante en ce moment ?
Non, je pense que maintenant, les plantations, il faut gentiment lever le pied. On a vu que nos nuits se sont bien, bien rafraîchies. Après, c'est clair qu'un lierre, il ne va pas mourir si on le plante maintenant, mais il ne va pas bien pousser, il va peut-être végéter. Et puis, c'est bien dommage de planter quelque chose maintenant pour avoir le même résultat l'année prochaine, finalement. Il vaut mieux planter au printemps, maintenant laisser la nature un petit peu tranquille.
On va parler laitue. Catiou, ça vous parle un petit peu ?
Un petit peu.
Ma laitue n'a pas de cœur et de fleurs jaunes, et des fleurs jaunes ont poussé. Elle est donc immangeable. C'est Olivier de Boncourt qui voudrait savoir à quoi cela est dû et comment faire pour éviter ça à l'avenir.
Alors, une laitue qui n'a pas de cœur, je suis un peu surprise. Là, je vous dis honnêtement que je ne peux pas répondre à cette question. Les fleurs jaunes, à mon avis, c'est que la laitue a monté.
Oui.
Donc, à mon avis, le semis n'a pas été fait correctement déjà à la base. Je pense que peut-être cette personne a semé trop dense. Et puis quand on fait des semis, par exemple si justement on sème de la laitue, on va devoir faire un semis en pleine terre. Donc quand on appelle en pleine terre, c'est vraiment dans son jardin. Et puis quand les plantes ont germé et puis ont quelques centimètres, on doit éclaircir. Ça veut dire qu'on doit laisser une plante environ tous les 30 cm. Donc 30 cm sur la longueur de la ligne et 30 cm sur la largeur de la ligne pour que justement cette plante puisse vraiment bien se développer et puis ne pousse pas plutôt en hauteur et tout de suite sortent les fleurs, donc là, ce qu'on appelle la montée de la laitue. Donc à mon avis, c'est ça qui a été fait, ça a été semé beaucoup trop dense et puis ben voilà, ça a poussé en haut au lieu de pousser en largeur.
Donc la laitue et toutes les sortes de salades, si on veut en faire pousser en ce moment, bien sûr, il faut, j'imagine, mettre une serre.
Oui, une serre, ou alors peut-être les couvrir. C'est vrai qu'il ne fait pas encore trop froid. On a des laitues qui sont des laitues d'hiver, donc qui sont faites exprès pour planter. Bon, on dit plantation octobre, c'est vraiment la dernière des dernières plantations. Alors effectivement, soit sous serre si on a ce genre d'équipement, ou sinon, il faut vraiment les protéger, les couvrir durant la nuit. Mais par contre, il faut les laisser respirer le jour. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour faire pousser de la laitue.
C'est assez délicat.
À cette période, oui.
Merci Cathy Racine, en tout cas vous êtes avec nous jusqu'à 8h et il y a plusieurs moyens pour vous qui nous écoutez de poser vos questions.
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. C'est le meilleur moyen pour discuter et expliquer votre problème à Cathy Racine. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939 en n'oubliant pas de taper le mot « jardin » en début de message et en laissant l'espace. Et il y a encore le formulaire internet que vous retrouvez sur nos sites sous l'onglet « émissions, questions aux jardinières ». Et n'hésitez pas à bien décrire votre problème de jardinage avec plein de détails pour qu'on puisse y répondre au mieux.
7h, 8h, les jardinières.
Pour toutes vos questions de jardinage, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20. C'est ce qu'a fait Didier Desbois, il est avec nous.
Bonjour Didier.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, j'ai acheté au printemps passé, donc 2017, des bougainvilliers. Et puis je les ai mis en pot, et donc des grands pots de 40 sur 40, avec 50 de haut. Et ils ont super bien poussé, puis j'aurais voulu savoir s'il faut les tailler avant l'hiver, et puis les rentrer au chaud, soit dans le garage ou dans un local.
Bonjour. Oui, il faut les rentrer. C'est très important. Le bougainvillier ne supporte absolument pas du tout de froid. C'est une plante qu'on trouve beaucoup en Afrique du Nord. Donc, je vous laisse imaginer la différence de climat qu'il y a avec chez nous.
Tout à fait.
Quelle hauteur ils ont maintenant à peu près ?
Oui, il a bien poussé, je sais pas, entre 50 et 60 centimètres.
Oui, d'accord, oui. Alors, vous pouvez enlever tout ce qui est sec. Il y a des choses qui doivent avoir un peu séché, certaines branches qui sont peut-être un petit peu abîmées. Ça, vous pouvez couper avec un sécateur, parce que ça lui prend beaucoup de force pour passer l'hiver, tout ce qui est abîmé. Donc, déjà ça, on va l'enlever. Ensuite, vous pouvez un petit peu le tailler. Il ne faut pas trop le tailler maintenant, en fait. Vous pouvez juste le tailler un peu pour lui donner une forme qui vous convient. S'il y a peut-être un petit peu des branches qui partent dans tous les sens, bien le tutorer, bien le préparer. Et puis, il faudrait pouvoir le rentrer dans un endroit où il y a beaucoup de luminosité. Donc, vraiment une luminosité comme dans un appartement ou dans une maison. Mais par contre, il ne faudrait pas que la température dépasse les 5 degrés. C'est vraiment l'idéal si on peut les mettre dans une espèce de latence pour l'hiver, mais où il n'y a pas de gel quand même. Et puis l'arrosage, il faut bien le réduire. On arrose à peu près, d'après la dimension que vous m'avez dit des pots, on va mettre peut-être un litre par mois. C'est vraiment le maximum. Mais pas lui mettre le litre en une fois. Il faut lui donner de temps en temps un petit peu d'eau. Vraiment, il a besoin de se reposer, de faire une période de pause pendant l'hiver. Et puis après, quand il fera les beaux jours au printemps, vous le ressortez tranquillement, de manière à ce qu'il se réhabitue aussi à être dehors, pas qu'il ait tout d'un coup, au mois de mai, des grandes chaleurs, tout d'un coup, parce que là, il ne va pas supporter non plus. Hein. Donc, il a vraiment besoin et de se mettre tranquillement en hiver et de se remettre tranquillement en période végétative.
C'est génial. Voilà. Je vous remercie.
Mais il n'y a pas de quoi.
Bonne journée, Didier.
Bonne journée, bon week-end.
Bonne journée.
Au revoir.
On a Yvette de Peuzeux qui demande comment arracher ses dahlias pour les hiverner sans les abîmer.
Alors, les dahlias, ce qui est important pour les arracher correctement, c'est déjà d'essayer de faire ça sur un sol le plus sec possible. Parce que quand on a une terre qui est sèche, c'est beaucoup plus facile de sortir les bulbes. Donc, le dahlia est un bulbe, hein, de sortir les bulbes de terre. Il faut faire ça avec une bêche. Le bulbe de dahlia peut être jusqu'à 30, voire 40 cm de profondeur. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment autour du dahlia de bien planter sa bêche profondément, puis d'y aller vraiment doucement pour ne pas abîmer le bulbe. Ensuite, l'idéal, c'est quand on a pu les sortir, c'est de bien les laver à l'eau pour enlever toute la terre qu'il y a autour. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on rentre les bulbes de dahlia et qu'il reste de la terre autour, on amène aussi des maladies avec. Donc, il y a des risques de pourriture pendant l'hiver. Puis, c'est dommage qu'on fasse tout ce travail pour retrouver des bulbes qui sont tout pourris au printemps. Ensuite, il faudra les faire sécher, les dahlias, il faudra les faire sécher, mais il faut les faire sécher la tête en bas, ça c'est très très important aussi. On coupera tout ce qui est, s'il reste encore des fleurs ou des pousses, on les coupera à peu près à 20 cm du bulbe et on mettra le bulbe séché la tête en bas. Et quand le bulbe est bien sec, hein, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va le mettre dans une cave où il fait frais également, mais là où il fait nuit. Pourquoi où il fait nuit ? Parce qu'une plante qui est dans la nuit se met en arrêt total de végétation. Si on met un bulbe de dahlia, par exemple, dans un appartement, dans une chambre qui est un peu sombre, la chaleur et le peu de lumière qu'il y a feront redémarrer le bulbe, qui sera en fait pas du tout prêt parce qu'il n'aura pas du tout fait ses réserves pour faire des fleurs. Donc c'est vraiment important de le mettre dans la nuit et dans le frais pour l'hiverner.
Merci Cathy Racine pour toutes ces précieuses réponses que vous nous apportez ce matin. Jusqu'à 8h, vous êtes avec nous. Et vous qui nous écoutez, vous avez plusieurs moyens pour poser vos questions à Cathy Racine.
Vous pouvez composer le 0901 70 20 20 pour discuter de votre problème de jardinage avec Cathy Racine. Vous pouvez également nous écrire un SMS au 939 en tapant le mot jardin au début de message et en laissant un espace avant votre question. Et il y a aussi le formulaire internet sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h. Ce matin, nous sommes accompagnés de Cathy Racine. Elle attend vos appels
au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. C'est ça le numéro qu'il faut composer pour votre question à notre jardinière professionnelle. Elle répond à toutes les questions, donc n'hésitez pas de composer le 0901 70 20 20. Et il existe aussi le SMS au 939 en tapant le mot jardin et en laissant temps un espace avant votre question. Il y a aussi le formulaire internet sous l'onglet émission questions jardinières. N'hésitez pas à nous donner le plus de détails possible sur votre problème de jardin pour qu'on puisse vous satisfaire au mieux.
Et des détails, il y en a dans le SMS qu'on vient de recevoir. Ça concerne un citronnier, Katiou. Un citronnier qui a encore des citrons. Alors notre auditeur nous demande comment est-ce qu'il doit le protéger la nuit et la journée dès l'arrivée du froid, s'il doit le rentrer à l'intérieur avec une bonne luminosité, ou, et puis s'il doit le rentrer maintenant ou si c'est trop tôt. Alors on va déjà commencer par cette partie-là parce qu'ensuite il y a une seconde partie. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez éclairer notre auditeur sur, sur son citronnier, s'il doit le rentrer la nuit, comment faire pour l'hiver ?
Oui, alors il est temps maintenant de le rentrer. C'est vrai qu'on pourrait bien surveiller nos nuits, se dire, ben voilà, tant que ça descend pas en dessous de zéro, on peut encore le laisser dehors. C'est un petit peu risqué chez nous parce que parfois les données qu'on reçoit ne sont pas toujours justes. Donc maintenant, en plus, s'il y a des citrons, ça serait vraiment bien de le rentrer. Il faut le rentrer évidemment où c'est qu'il y a beaucoup de lumière pour que ces citrons puissent continuer de venir à maturité. Attention de ne pas le mettre dans un endroit où il fait trop chaud. Si par exemple on le mettra maintenant dans une véranda et puis qu'il fait encore quelques jours où il y a du bon soleil, il risque d'avoir un coup de chaud. Donc on peut le mettre à l'intérieur, bonne luminosité, dans une température normale, je dirais, pour que les citrons continuent de grandir.
Et puis donc à l'intérieur, ça on en a parlé. Et après, par rapport à la protection, comment est-ce qu'il faut le protéger? Uniquement le pot ou est-ce qu'il faut l'emballer complètement? Et puis finalement l'arrosage?
Alors là du coup, ben, on l'emballera pas du tout vu qu'on le met à l'intérieur, ça sera pas nécessaire. Donc un citronnier ne peut absolument pas passer l'hiver dehors chez nous.
Donc jamais, dans aucun cas, même s'il est emballé.
Non.
Donc ça va aussi pour les mandariniers.
Voilà.
Tout ce qui est agrume.
Exactement, oui. Et puis pour l'arrosage, ben justement vu que ce citronnier est encore en train de faire des fruits, on continuera l'arroser de manière normale parce qu'il n'a pas besoin maintenant d'être en période de végétation, donc il faut vraiment l'arroser encore. C'est difficile de donner une quantité parce qu'on ne sait pas la grandeur du pot, on ne sait pas trop l'exposition non plus de l'appartement ou du lieu où il sera stocké. Donc il faut l'arroser de manière à ce qu'il ait suffisamment d'eau comme s'il était dehors, on va dire ça comme ça. Et puis après, quand les citrons auront été récoltés, là on pourra le mettre donc en hivernage, comme on a parlé avant, dans un endroit maximum 5 degrés avec beaucoup de lumière.
Estelle de Tramelan nous dit que les feuilles de son poirier ont des cercles jaunes, rouges et noirs. Alors qu'est-ce que c'est ces cercles jaunes, rouges et noirs, Katiou Racine ?
Je pense, d'après ce que j'entends comme couleur arc-en-ciel sur ce poirier, que c'est la rouille grillagée du poirier. C'est une maladie qui est assez compliquée à traiter. Parce qu'en fait, elle ne se développe pas sur le poirier, elle se développe sur un conifère qui doit être à proximité. Si cette personne a des conifères, des haies, de juniperus en général, c'est un conifère qu'on trouve encore pas passablement chez nous. En général, ce virus, cette maladie se développe sur le juniperus. Et après, avec les spores, va se poser sur le poirier, là où il peut s'installer, et puis pose problème sur ses feuilles de poirier. Il existe pas vraiment un traitement chimique à faire. L'idéal, c'est d'enlever mécaniquement tout ce qui est feuilles contaminées. Si c'est pas un arbre qui fait 5 mètres de diamètre et 6 mètres de haut, de bien enlever ses feuilles à la main, de mettre ses feuilles dans un sachet plastique, fermé à la poubelle et surtout pas au compost. Pourquoi ? Parce que si on met ses feuilles au compost, on permet à la maladie de continuer d'évoluer et de se reposer sur d'autres poiriers, parce que la rouille grillagée ne va que sur les poiriers. D'aller sur d'autres poiriers l'année d'après. Et puis, le mieux, ça serait de pouvoir enlever ces conifères qui sont à proximité. Je pense que d'après la description, c'est ça.
Est-ce qu'il faut du coup déplacer le poirier ou ça peut lui poser problème? Vraiment, il peut mourir s'il continue à vivre avec cette maladie?
Alors oui, tout à fait. Il peut vraiment passer l'arme à gauche, comme on dit. Le déplacer, c'est un peu compliqué parce qu'en général, quand ils sont en place, de déplacer des arbres fruitiers, c'est assez compliqué parce qu'ils ont un système racinaire qui est assez important. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir localiser où est ce conifère qui donne cette maladie. Ça, c'est le plus simple.
On va revenir à l'intérieur plutôt, Katiou Racine. On a un auditeur qui nous demande quelle plante d'intérieur demande le moins d'entretien possible. Laquelle conseillez-vous pour les paresseux du jardinage?
Alors, tout ce qui est plante grasse, après, ça dépend un peu de la taille de la plante qu'il aimerait. Hein. Si on veut, si on a un petit studio, des petits coins, tout ce qui est plante grasse, cactus, ben ça, on sait très bien que ça demande absolument pas de travail. Une cuillère à soupe d'eau par mois, c'est bien suffisant. Après, voilà, je trouve que c'est pas trop une plante non plus, question décoration. Si on va dans les plantes qui sont simples, par exemple, tout ce qui est... je vais pas vous donner des noms de latin, parce que ça va pas vous aider beaucoup. Tout ce qui est ficus, c'est assez facile, pour autant qu'il se plaise. Si un ficus se plaît, on ne va pas le déplacer parce qu'il peut tout d'un coup perdre toutes ses feuilles juste parce qu'on l'a déplacé 2 mètres. Donc le ficus, si vous en achetez un qui se plaît, laissez-le où il est. Et sinon, on a toutes ces sortes de petits palmiers qui sont super, qui ont des troncs type yucca, pour ceux à qui ça parle. C'est des plantes qui sont très très faciles, qui ont juste besoin d'un très grand pot. Donc quand on les achète, en général, ils sont dans un pot qui tient à peine debout parce que le haut est plus volumineux que le pot. Il faut vraiment prendre la peine de bien les rempoter, de faire ça correctement, de leur mettre un bon grand pot, et on n'a vraiment pas besoin de s'en occuper beaucoup.
En termes d'arrosage, pour toutes ces plantes que vous venez de citer, c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou est-ce qu'on peut justement espacer de plus de temps les arrosages ?
Alors, on a toujours tendance à donner trop d'eau. Les plantes d'intérieur n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ce qu'il faut faire, c'est aussi difficile de dire combien et comment, parce qu'on ne sait jamais les tailles du pot. Mais il faut faire attention, quand on achète une plante, si on la rempote, déjà de bien drainer le fond du pot. C'est-à-dire qu'au fond du pot, on va mettre soit des cailloux, soit du leca, pour faire un drainage de manière à ce que l'eau ne reste pas stagnante au fond du pot. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est sec, parce que dessus, avec les chauffages des appartements, ça sèche beaucoup. On rajoute une petite couche d'eau, et puis en fait, au fond du pot, si on sort la plante, c'est très très mouillé. Et puis souvent, on a des plantes qui viennent jaunes, on se demande ce qui se passe, et puis 90% du temps, c'est à cause de l'eau qui stagne au fond. Donc il faut bien préparer sa plante. Attention, pour ceux qui ont le chauffage au sol, ne jamais poser un pot au sol. On mettra toujours un support à roulettes, parce qu'évidemment, chauffé par le bas, les plantes, elles n'aiment pas tellement. Et puis voilà, on va arroser de manière à ce qu'on voie... L'indicateur, finalement, c'est les feuilles. Si vous voyez que des feuilles commencent à devenir jaunes, c'est qu'il y a beaucoup trop d'eau. Et si vous voyez que le bout des feuilles vient sec, noir, là, c'est qu'il manque d'humidité. Donc, il ne faut aussi pas oublier de vaporiser nos plantes. Toutes nos plantes d'intérieur sont des plantes tropicales.
Plein de bons petits conseils, effectivement. Moi, j'avais justement une question sur les pots. Parfois, on voit de grandes assiettes sous les pots et le pot a un petit trou, justement, pour laisser évacuer l'eau. Est-ce que vous conseillez ce genre de choses pour éviter le fait que l'eau stagne au fond du pot ?
Oui, on peut, bien sûr, mais il ne faut pas oublier de vider chaque fois l'assiette. Ne jamais laisser de l'eau stagnante pour aucune plante. Aucune plante ne supporte ça, sauf si c'est un papyrus, par exemple. Le papyrus a besoin d'eau stagnante, mais là, c'est une plante un peu particulière.
N'hésitez pas à poser votre question, vous avez encore des bonnes minutes devant vous pour nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou nous envoyer un SMS au 939 en tapant le mot jardin et en laissant un espace avant votre question qui sera bien détaillée pour qu'on puisse y répondre au mieux. Nous avons reçu une question, comment préparer mon bégonia au repos hivernal ?
Ça serait bien de savoir qu'est-ce que c'est comme bégonia, parce qu'il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes. Alors, en général, tout ce qui est repos hivernal pour les plantes de ce type-là, on peut aussi parler des géraniums, par exemple, qui ont la même façon de pousser, c'est de, comme j'ai dit avant, enlever tout ce qui est sec. Hein. Maintenant, on arrive dans des périodes où les plantes commencent de sécher un peu, donc tout ce qui est feuilles qui est un petit peu jaune ou complètement sèche, tout ça, faut enlever, parce que sinon, c'est des à maladie pour l'hiver. On va rabattre ces plantes pour leur éviter de devoir prendre trop d'énergie pour entretenir les pousses qui sont déjà là. Donc on va rabattre ces plantes, on va pas rempoter, on va laisser comme ça pour l'hiver, et puis on va mettre aussi dans un endroit assez frais, un peu plus sombre, laisser tranquillement passer l'hiver. Il faut quand même donner un petit peu d'eau de temps en temps, parce qu'une plante qui reste depuis octobre jusqu'en avril ou mars-avril sans eau ne tiendra bien évidemment pas selon la grandeur du pot. Et puis on va les mettre en latence tranquillement pour leur laisser faire leurs réserves. Ces plantes ont besoin de passer l'hiver tranquillement pour pouvoir faire des réserves pour faire de la fleur au printemps. Donc c'est uniquement pour ça qu'on met les plantes en repos hivernal. Donc vraiment rabattre, couper, enlever tout ce qui est fichu, mettre tranquillement où il n'y a pas trop de lumière, et puis on attend que l'hiver se passe.
Merci Cathy Racine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez encore un petit quart d'heure pour poser vos questions à Cathy et profiter peut-être des notes de musique qui vont suivre. Sarah, comment est-ce qu'on peut poser une question ce matin ?
En composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute, c'est le meilleur moyen pour expliquer votre problème en long et en large à Cathy Racine. Et sinon, il y a aussi le formulaire internet que vous trouvez sur nos sites sous l'onglet émission questions jardinières et le SMS au 939 en n'oubliant pas le mot jardin et l'espace avant votre question.
Les jardinières.
Agnès de Bienne a profité de la pause musicale pour nous appeler au 0901 70 20 20. Elle a une question pour vous, Cathy Racine. Elle a un hibiscus avec des fleurs normales, pas trop grosses, qui sont rose-orange. Cet hibiscus est dans un pot et elle aimerait savoir si elle doit le rentrer dans un local au frais ou si elle peut le laisser dans son appartement.
Alors, l'hibiscus, c'est exactement la même chose qu'on a eu la question avant du bougainvillier. Et c'est aussi une plante qui pousse en Afrique du Nord, donc a aussi besoin d'un climat très très chaud. Le seul avantage avec l'hibiscus, c'est que parfois il peut être encore en fleurs maintenant, selon le temps qu'on a eu. Donc, si c'est le cas, s'il y a encore des fleurs, elle peut sans autre le garder à l'intérieur encore un petit moment, le temps que les fleurs finissent de montrer leur beauté et puis tombent. Sitôt que toutes ces fleurs seront tombées, alors faudra faire la même chose. Enlever tout ce qui est sec, le rabattre un peu pour pas qu'il y ait des choses qui prennent trop de force, le mettre dans un local frais, bien illuminé, et puis réduire l'arrosage au maximum. Et puis comme ça, après au printemps, elle pourra le ressortir. Il faudra juste faire attention un petit peu sur ce genre de plante. Il vient facilement des petits parasites durant l'hiver, donc il faudrait les pulvériser avec du savon noir avant de les rentrer. Et puis comme ça, on les protège pour l'hiver, et puis on peut les ressortir au printemps.
Nous sommes fin octobre, Cathy. Il commence à faire frais le matin. D'ailleurs, là, il fait encore nuit. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile de se réveiller pour aller jardiner. Mais qu'est-ce que vous, en tant que jardinière professionnelle, vous conseillez de faire aujourd'hui pour tous ceux qui aimeraient peut-être avancer, faire quelques petits travaux dans leur jardin ?
Alors maintenant, on fait vraiment les derniers travaux, qu'on profite encore, qu'il fait encore justement pas trop froid. On peut couper tout ce qui est lavande. Par exemple, on a certaines variétés de lavande qui sont encore en fleurs, qui arrivent vraiment en fin de floraison. Là, on pourra enlever tout ce qui est fleurs sèches, leur redonner une belle forme. On peut y aller soit au sécateur ou soit avec un taille-haie, selon la taille de la lavande. Faire des formes qui seront déjà prêtes pour le printemps, parce que la lavande, on peut la tailler en une fois. Donc maintenant, on va vraiment lui donner sa forme définitive. On nettoie tout bien ça, on enlève les branches sèches. Il y a toujours énormément de branches sèches dans les lavandes. On va finir de tailler les haies. Hein, tout ce qui est haies de conifères ont besoin d'être taillées. C'est la période maintenant, on arrive gentiment à la fin. Donc ceux qui n'ont encore pas fait ça, allez-y. Pour ceux qui ont par exemple des étangs, il y a les roseaux qui sont finis. Donc on va couper ces roseaux, on va aller sous l'eau pour enlever tout ce qui est sec. Enfin sec, non, ça ne va pas être sec sous l'eau, vous me direz. Mais ce qui est fichu pour éviter que ça pourrisse pendant l'hiver et puis que ça donne peut-être des bactéries dans l'eau. Comme ça, on va nettoyer les étangs. On peut tondre encore, il n'y a pas de problème. Hein. On a vu que le gazon pousse encore, donc on peut faire les dernières tontes. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire encore maintenant pour les jours qui viennent.
Au niveau de la taille de la lavande, vous en avez parlé. Est-ce que si c'est sa première floraison, il y a des précautions à prendre pour pas trop la tailler ou on peut y aller ?
Alors ça dépend un peu de la taille de la plante. Hein. On peut acheter dans le commerce des toutes petites plantes, comme déjà certaines plantes qui ont déjà un joli diamètre. Sur les petites plantes, on va vraiment enlever que ce qui est fleur, donc les tiges, hein, vraiment la tige de la fleur. On va couper jusqu'à ras la plante et puis on va s'arrêter là. Après, sur une lavande qui est un peu plus grande, souvent elles prennent des formes un peu bizarres. Alors soit on les laisse aller comme ça, selon ce qu'on aime comme forme dans son jardin, ou alors celles-là, on peut vraiment les tailler un peu plus bas. Mais attention, il faut toujours qu'il reste de la feuille, hein, faut pas qu'il y ait que du bois, sinon elle ne va plus pousser.
Vous parliez de haies et de sapins en fait à tailler en cette période. Est-ce qu'on peut les planter en cette période ?
Oui, on peut, pour autant qu'on achète des plantes qui aient des grands godets, c'est-à-dire qu'il faut des pots qui sont d'une certaine taille, il faut des plantes qui soient vigousses, parce que vu qu'on arrive contre la mauvaise période, contre le froid, autant avoir des plantes qui sont bien fortes, qui pourraient d'ici 2-3 semaines ou un mois avoir une forte gelée sans risquer d'avoir un problème. Et puis ce qu'on peut faire quand on plante quelque chose maintenant, on peut aussi très bien protéger au sol, là où on a planté la plante, mettre des branches de sapin ou alors d'autres substrats qui pourraient protéger en cas de gelée, qui pourraient déjà protéger sur 4 ou 5 cm de profondeur.
Comme les feuilles mortes ?
Les feuilles mortes, par exemple. Oui, on peut utiliser des feuilles mortes sans problème. Le seul souci, c'est que s'il vient un grand coup de vent et puis que c'est bien sec, ben les feuilles mortes, elles seront chez le voisin et plus chez vous. Donc voilà, on peut les utiliser, bien sûr, mais il faudrait presque les mettre dans un filet ou s'arranger pour qu'elles ne partent pas.
Et on part.
Allez, Sarah.
En parlant de feuilles mortes, qu'est-ce qu'on peut en faire de toutes ces feuilles mortes qu'on ramasse ?
Alors, pas grand-chose, non. On peut les utiliser pour... Il y en a qui font des super décos avec les feuilles mortes. On peut les utiliser, on peut en faire de l'humus, c'est-à-dire qu'on va les laisser se décomposer et puis mélanger ça à la terre quand on plante au printemps. Donc, ça donne un bon engrais de départ. Attention, c'est pas un engrais qui est très puissant, mais on va pouvoir l'utiliser. Et puis, ben, sinon, pour mettre dans le compost, c'est pas mal non plus parce que ça va faire des couches d'aération étant donné que c'est assez ample, ça va permettre au compost d'avoir des couches où il y a de l'air qui circule, donc le compost va se défaire bien plus vite.
Merci Cathy Racine d'avoir répondu à toutes ces questions. Le temps file, hein. Les jardinières, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. En parlant de temps qui passe, n'oubliez pas que ce week-end, on passe à l'heure d'hiver.
On vous donne rendez-vous samedi prochain à 7h en heure d'hiver. Du coup, Stéphanie, merci. Et d'ici là, écrivez-nous vos questions par SMS au 939 en tapant le mot jardin en début de message et en laissant l'espace avant votre question. N'oubliez pas aussi le formulaire internet sur nos site et bon week-end à tous, à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h.